des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois des livres plein les oreilles, l'émission qui se consacre uniquement, exclusivement aux livres audio. Vous pouvez l'écouter, je vous le rappelle, en balado, sinon à CKVL ou bien sûr à Canal M qui l'a produit. Cette semaine, un garçon réputé dans la vie comme étant le plus doux des hommes et des papas. Mais quand il est devant la caméra, eh bien, il devient souvent celui qu'on aime haïr. Ou alors, quand il prend la plume, celui qui tombe volontiers dans les ténèbres. J'ai nommé Patrice Godin parce qu'il s'agit bien de lui qui va venir s'entretenir. Qui va juste prendre son téléphone pour s'entretenir avec moi cette semaine pour évoquer Les Chiens, un livre qu'il a écrit et lu chez Vues et Voix. Et c'est possible aussi qu'on parle un petit peu de marche à pied avec Monsieur Godin. Alors, quitte à parler de marche à pied, je voulais également, à cette émission, évoquer avec vous le livre « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson, où l'on découvre que chacun peut faire son Compostelle sur des chemins non tracés par le passage de milliers d'autres avant nous. L'écriture de Sylvain Tesson en est une absolument fantastique, un parcours extrêmement enrichissant pour l'âme et pour la tête. En seconde partie, on va retrouver avec grand plaisir l'ami Gérald Cousineau, qui représente à cette émission avec Faline Bobier toute cette communauté de celles et ceux qui utilisent encore les livres audio par nécessité. Alors il évoque pour nous deux livres accessibles qui existent aussi en format commercial, Munich de Robert Harris et Nature humaine de Serge Joncourt. Et enfin, je vais avoir le plaisir de pointer les oreilles pour vous sur quelques nouveautés en audio qui méritent qu'on s'y arrête un instant, avec extrait à la clé, bien sûr. Patrice Godin est déjà en ligne, je vais lui parler juste après ce premier extrait du livre « Les chiens ».
D'abord, il y eut un claquement. Puis un bref, infime silence suspendu au-dessus du désert. Une sorte d'avertissement, peut-être. Un signe avant-coureur du chaos, de l'horreur qui allait s'abattre. Un silence, suivi d'un sifflement assourdissant, une sauvagerie tombée du ciel, un éclair aveuglant boursouflé de rage et de ténèbres enflammées. Les cris vinrent ensuite, les hurlements, les corps déchirés, calcinés. Les pleurs, la fureur, la noirceur d'une fin de journée qui brûlait partout. Un enfer que les démons eux-mêmes auraient préféré fuir. Un instant plus tôt, Sam regardait les enfants afghans jouer au soccer sur le terrain vague près de la base des forces spéciales canadiennes à Kandahar. Il se tenait debout sur une passerelle qui surplombait le mur d'enceinte, souriait en buvant son café. Les enfants venaient souvent ici avant le crépuscule. Les gars de l'escouade et Sam lui-même vérifiaient chaque jour que l'endroit était sûr pour que les gamins, garçons et filles, puissent y jouer en toute sécurité. Ils avaient délimité une zone assez grande, un rectangle de terre battue et brûlée par le soleil, installé des buts de fortune en filets de camouflage, et ils veillaient à ce qu'aucune mine antipersonnelle ou aucun engin explosif improvisé n'y soit caché, enfoui par des insurgés téméraires qui auraient eu envie de braver les soldats à la faveur de la nuit.
Voilà, c'est dit, on n'est pas dans un roman d'amour. Bonjour Patrice Godin.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, très bien, très
bon,
bien.
Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est pas la première fois, je me permets de te tutoyer, je sais pas pourquoi.
Bien
ça
sûr,
me...
bien
oui,
sûr.
Bon, bah regarde, bien alors sûr. Alors on fait comme ça, Patrice.
Oui.
Patrice, je suis tombée dans ce bouquin, j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire, et puis il y a ces scènes, hein, cette scène par exemple qu'on vient de faire entendre, qui est la toute première du bouquin, qui fait froid dans le dos. Mais il fallait qu'on l'entende, je ne déflore rien, puisque de toute façon, c'est l'élément déclencheur, c'est bien ça.
Au début du livre, oui, c'est ça, c'est vraiment le livre commence sur cette scène-là, en fait, qui est un retour en arrière, un petit peu, là, dans la vie de Sam.
C'est ça. Alors, c'est une scène je voudrais tout de suite le préciser, qui révèle, je trouve, une espèce d'écriture qui est très cinématographique. J'avais l'impression, en vous lisant, de me trouver devant un écran. Je voyais ces gamins courir et malheureusement, bon, s'envoler, oui, en fumée à cause de cette bombe qui leur tombe dessus. Mais est-ce que c'est pensé pour un éventuel film, ça?
Pas du tout.
Non?
En fait, ben non, parce que moi, je recherche vraiment l'image qui est, puis là, dans ce cas-là, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais qui est percutante.
Oui, oui.
Beaucoup, puis c'est sûr que j'ai une formation, bon, je suis un acteur, je travaille en télévision beaucoup, en cinéma, mais je suis quelqu'un qui est très visuel, qui aime beaucoup qui accroche beaucoup sur les images.
Ouais, et c'est évident.
J'écris, ben je vais vers ça aussi,
ouais,
on dirait.
Oui, oui, oui.
Je veux que ça soit en peu de mots. J'aime ça, essayer de décrire en peu de mots quelque chose,
ouais,
très précisément. Donc,
ouais, c'est marrant, c'est un petit peu comme une écriture de chanson. Tu sais, quand on écrit une chanson, faut aller,
oui,
dans le vif. Et
aussi, j'écrivais beaucoup de poésie à une époque, puis je pense que ça m'a... bien que je n'ai pas publié du tout. Là,
non, mais...
Mais je pense qu'à une époque, le fait de jouer dans la poésie, dans ça m'a peut-être aidé à créer ça, justement, ces images-là.
Alors, Patrice Godin, Les chiens, c'est le titre de,
oui,
ce livre. Les chiens, ce sont ces êtres abjects, hein, qui prennent racine,
oui,
dans les terres en guerre. Ces êtres dont les exactions sont plus dramatiques encore et troublantes que celles de la guerre elle-même.
Oui.
Ce sont au départ des gens engagés qui deviennent de véritables enragés. D'ailleurs, ils ne le deviennent pas, ils le sont au départ, et
oui,
la situation décuple cet état d'esprit-là. C'est bien ça, hein?
Oui. Oui, tout à fait. Ben, les chiens, en fait, ça vient de... C'est ça, c'est que il y a les humains qui sont, pour moi, dans ce livre-là, le côté péjoratif quand on dit de quelqu'un qui est un chien. Ben,
ouais,
c'est ça.
Puis
t'as les chiens aussi, il y en a deux dans le livre, des vrais chiens,
ouais,
qui sont un peu le reflet... De leur maître, en fait.
Oui.
Ce qui est dans la vie aussi est comme ça. Hein.
Oui.
Souvent, on va, même sans s'en rendre compte, choisir une race de chien qui
oui,
va nous représenter.
Il y a la merveilleuse Jane Bee, par exemple, la malinoise. D'ailleurs, ça m'a donné envie, après l'entrevue, on va écouter Jay Brockin. Ça m'a vraiment,
oui,
donné envie de réentendre cette chanson. L'un de ces chiens, d'ailleurs, sur lequel on pourra... Qui dit à un moment donné, « La violence, parfois, est la meilleure arme pour parvenir à la paix du corps, mais surtout de l'esprit. »
Oui.
Parlant d'armes, Patrice Godin, je me disais,
oui,
en te lisant que soit t'en connaissais vraiment beaucoup dans le domaine ou alors que tu avais fait vraiment de grosses recherches. Toujours est-il que c'est très précis dans les descriptions. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Tu n'as pas eu peur qu'on te le reproche en ce moment où on dit que les armes circulent un petit peu trop librement, etc.?
Ben en fait, non, moi je me cache pas que j'ai que j'aime les armes à feu. J'ai mes permis. Pour le livre, c'est sûr que j'en connais pas autant que les personnages du livre qui sont baignés là-dedans. Pour rendre ça, oui, j'ai fait des recherches. J'en connais un petit peu, là, mais je suis pas un spécialiste. C'est sûr que j'ai probablement pas une... Je suis
t'as pas l'expertise. T'as pas l'expertise,
mais... Non, j'ai pas l'expertise, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas... je suis pas arrêté finalement, comme... Je suis pas arrêté par rapport aux armes à feu, puis je trouve que c'est une question complexe.
Ouais.
Qu'on met souvent rapidement du côté, c'est pas bien, faut annuler ça, faut enlever ça, faut interdire ça, alors que présentement, ce qu'on assiste, c'est justement ce que je dénonce un peu dans le livre, c'est des trafiquants,
c'est
des gens, ceux qui utilisent des armes à feu, qui se tirent dans le centre-ville présentement, ou dans Montréal, peu importe, ce sont pas des gens qui ont des permis légaux et qui ont acquis des armes de manière légale et normale, donc... c'est un peu ça que j'ai vu.
Patrice.
Les gens qui ont les armes sont les
sont les chiens
légaux.
C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, Patrice, je me disais, pour parler de ce livre, parce que j'ai pas envie qu'on raconte en détail toute l'histoire, pourquoi ce retour en arrière de ça, parce que sinon, on bousille tout, on bousille le bouquin.
On arrive un peu, ouais.
Alors, je me suis dit que ce qui me semblerait intéressant, c'est de prendre le parti de présenter les personnages.
Oui.
Ceux qui commettent l'irréparable à tout bout de champ et qui ne sont jamais jugés vraiment pour leurs gestes. Et de l'autre côté, il y a les gens comme Sam, qui s'occupent de ces gens-là. Alors les personnages, Samuel, c'est vraiment le personnage central.
Dans cette histoire-là, oui, qui est qu'on a connu dans Sauvage Baby, qui est venu à l'aide, j'aime pas ça dire au secours, qui a aidé Alexia à reprendre sa vie en main, en fait. Je préfère ça. Sam, qui est un ancien opérateur des forces spéciales, qui est, de séparer les choses, qui est du bon côté des choses, alors que les Kowalski, dont je parlerai après, sont du mauvais côté des choses.
Les frères, oui.
Sam s'est retiré du monde un peu parce que justement, il a voulu le changer, voulu faire le bien en allant au-devant du mal, puis il se rend compte que c'est pas faisable. En fait, le mal est enraciné dans l'homme et ça n'en ira pas de sitôt. C'est un peu ce que moi je crois.
Un peu
à ce qu'on assiste présentement, je trouve, d'une manière peut-être moins sanglante présentement, mais bref.
En tout cas, il y a des histoires sûrement comme celle-ci qui existent et aussi dont on ignore totalement l'existence.
J'écoute des podcasts sur l'histoire de la guerre et hier matin, justement, j'en ai entendu un qui commençait sur ce qui s'est passé, la guerre, le génocide arménien. J'ai écouté 2 minutes puis j'ai arrêté parce que c'est pas une bonne journée pour écouter ça, c'est terrible.
Ah, oui.
Bref.
On n'imagine pas. Alors, il y a Sam, oui, effectivement, qu'on avait découvert, qui sort Alexia de la merde, disons-le.
Oui, qui l'aide. Alexia, qui est une jeune femme trans, qui était escorte de luxe, qui a été manipulée par son fiancé, ça, c'est dans la Sauvage Baby. Oui. Maintenant, 2 ans plus tard, on a une Alexia, elle, qui a jamais été aussi bien dans sa peau, elle est amoureuse de Sam, elle est bien avec lui. Mmh. Elle s'est découvert une passion pour le dressage des chiens, justement, des gentils chiens, dont sa chienne malinoise, Jane B.
Ouais.
Donc, Alexia, elle, qui je dirais qui est comme la pureté dans cette histoire-là, qui est la...
C'est vrai.
Qui est pour Sam, en fait... lui, il l'a sauvé dans Sauvage Baby, mais en fait, c'est elle qui a sauvé Sam de lui-même.
Elle qui a tellement peur, écris-tu, qui a tellement peur que la sauvagerie du monde ne refasse surface.
Oui, parce qu'elle a connu vraiment sous toutes ses formes. D'abord, enfant, devant son désir de changer, de plus être Alexis, mais d'être la personne qu'elle était Alexia, devant... l'intimidation de sa famille, de son père, des jeunes du milieu dans lequel elle a grandi. Donc, et après ça, dans tout le reste de ses années, elle ne veut plus revivre ça. Et avec Sam, tout va bien jusqu'à ce moment-là.
Et d'ailleurs, elle panique complètement parce qu'elle dit non, mais c'est pas possible que ça ne va pas recommencer. Tout allait trop bien. Et puis, parce que, on dira juste ça, ils sont rattrapés par finalement l'histoire de ces enfants qui ont été assassinés et par ceux qui sont à l'origine
de
ça. Alors, il y a les frères Kowalski. Un des deux est mort. Et l'autre, Gabriel, porte en lui, écris-tu, le mal comme seule vérité absolue.
C'est ça. C'est des gens... les Kowalski, je les ai voulu... t'as les deux frères Kowalski, un qui est décédé en Afghanistan, et t'as le frère survivant. T'as et sa nièce, qui s'appelle Laetitia Kowalski, qui est la fille de l'autre frère.
Quel personnage!
J'ai adoré écrire ce personnage. qui est une furie, en fait.
Oui.
Vraiment une...
Ouais, ouais.
Qui est une guerrière, qui est une amazone, mais du diable.
Un personnage de BD, mais vrai.
Oui, je l'ai un peu voulu. En fait, j'avais un peu le pendant de Lisbeth Salander des Millennium.
C'est vrai.
Mais mais élevé chez le diable.
Ouais.
Élevé par le diable.
Dis donc, d'ailleurs, parlant de Wallander, Sam, il écoute de l'opéra. Est-ce que c'est un clin d'œil à Wallander? À un moment donné, il écoute Faust de Gounod. Parce que tu sais que Wallander écoute de l'opéra.
Ah, c'est dans... Non, ça, c'est...
C'est pendant Wallander?
Ça, je ne me rappelle pas. Non.
Ouais, il me semble que oui, c'est Wallander qui adore écouter de l'opéra, il me semble. Écoute, on va retrouver ça sur Google, je ne voudrais pas me perdre. Mais si tu le veux bien, on va entendre un autre extrait. C'est toujours au début du livre. Ça met la table, en quelque sorte. Extrait de Les Chiens, et lu par Patrice Godin, que je reçois en ce moment.
Il arrivait qu'il se joigne à la partie en cours, qu'il joue avec les enfants pour le simple plaisir. C'était assez fréquent en période d'accalmie, lorsque le rythme opérationnel tournait au ralenti et que le temps le permettait. Les gamins adoraient ça, ils en redemandaient. Ils riaient, chahutaient, se démenaient avec une énergie folle pour ne pas perdre possession du ballon rond, et Sam ainsi que ses camarades leur concédaient l'avantage, en prenant soin toutefois de les pousser à leurs limites. Ces enfants leur rappelaient les leurs, laissés loin derrière à la maison, à des milliers de kilomètres de là, dans un monde complètement coupé de leur propre réalité. Passer du temps avec ces jeunes était une sorte de baume pour les pères qu'ils étaient, en grande majorité. Ces instants de jeu, de détente, faisaient une différence pour tout le monde. La violence et la sauvagerie barbare de la guerre s'effaçaient sous les rires et les cris joyeux, les cœurs excités des jeunes Afghans. En cette fin de journée, il n'y avait que Sam qui les observait, un sourire en coin. Un des garçons, le plus vieux de la bande, lui avait fait signe pour qu'il vienne les rejoindre, mais Sam, d'un geste d'impuissance, avait décliné, lui faisant comprendre qu'il ne pouvait pas aujourd'hui. De fait, il était en stand-by. Les renseignements avaient localisé un chef taliban dont les actions causaient des dommages considérables aux forces de la coalition. Sam et son équipe auraient enfin l'autorisation d'aller le dégommer cette nuit, d'enlever ces gènes bâtards du pool génétique.
Alors voilà pour Sam et tous ces personnages qui gravitent autour de lui dans ton livre Les Chiens, encore une fois, dont je ne veux pas raconter plus, hein, histoire de vengeance, histoire dure, mais très bien écrite. Et puis aussi, on s'intéresse beaucoup à la psychologie des personnages, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes de violence en tant que telles. Oui, il y en a... Mais pas, je veux dire, c'est pas un livre violent, c'est un livre sur le mal, celui qui est, voilà quoi, hein, qui fait partie de la vie.
En fait, oui, c'est ça, c'est dur, c'est un livre sur la violence intérieure.
Oui,
fait.
C'est ça.
Et vraiment, qu'est-ce qui amène les gens à poser certains gestes.
Dis-moi, le sport à haut niveau, t'en fais toujours autant, Patrice Godin?
Je fais de la course. Là, je me remets d'une blessure au tendon d'Achille. Et j'ai passé l'hiver un peu, l'automne et l'hiver un peu avec ça. Là, on dirait que ça va mieux.
Bon.
Donc, j'ai très hâte de reprendre ça.
Bon.
Parce de manière que... plus...
Ouais, parce que toi, je te connais un petit peu. Faire du sport, ça te réclame une discipline qui est quasi militaire.
Oui, j'aime ce côté-là.
Ouais, t'es très, très rigoureux. Et tu as lu le livre de Jean-Yves Cloutier, Marcher au bon rythme.
Oui, j'ai fait la lecture de ce livre-là, ouais.
OK, et toi, parce que t'es plutôt quelqu'un qui court, et de faire la promotion pour la marche, comment ça s'est passé?
As-tu
apprécié?
J'ai beaucoup aimé ça. La marche... C'est sûr que la course, c'est pas nécessairement. Je pense que tout le monde peut courir. Maintenant, c'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde qui veut se lancer dans la course.
Puis qu'à les genoux pour ça.
Ben en fait, moi, les genoux, j'y crois plus ou moins. Là.
Ah
je pense que ça peut être discutable, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est pas adapté, pour qui ça fonctionne pas, qui n'aiment pas ça. Ouais. Alors que la marche, ben ça, on peut pas y échapper, il faut marcher, sinon on marche.
C'est marche ou crève.
Ça s'apprend. oui. Et ça s'apprend à marcher, dire faire de la randonnée, faire de la longue distance de marche. Et le livre de Jean-Yves Cloutier répond à toutes les questions par rapport à ça. Ceux et celles qui par exemple, rêvent de faire des périples comme Saint-Jacques-de-Compostelle.
Ouais, ouais, ben, ouais.
ben, ce livre-là est là pour les guider, pour les amener à se rendre là-bas.
Eh bien, Patrice Godin, merci beaucoup de l'avoir lu. Merci pour le livre « Les chiens », lu et écrit par toi. Deux livres, « Marcher au bon rythme » et « Les chiens » qui se retrouvent sur le catalogue de Vues et Voix. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien-là entre deux rendez-vous, Patrice Godin. Passe une belle fin de journée.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Bye-bye. Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, miraculeusement vide. Ces mots sont ceux de Sylvain Tesson, qui a écrit, entre autres, livres sur les chemins noirs, et on parlait un petit peu de marche à pied tantôt, alors ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de leur reproposer ce livre de Sylvain Tesson, dont j'avais déjà évoqué le titre et quelques mots il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous savez, Tesson, c'est un type qui a subi un accident complètement ridicule. Bon, d'abord, c'est un personnage assez, il le dit lui-même d'ailleurs, assez hautain, assez... il se prend pas pour un autre, Tesson. Et puis, à un moment donné, malheureusement, à la faveur d'une beuverie, je sais pas pourquoi, il s'est mis à faire de l'alpinisme sur une maison et il est tombé. Suite à cela, eh bien, rééducation. Bon, d'abord, évidemment, il a perdu la vie. Il a perdu la vie. Il a failli perdre la vie. Il s'appelait lui-même la gueule cassée parce qu'il était vraiment cassé de partout. D'ailleurs, il raconte, corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute, si je m'en sors, je traverse la France à pied. Je m'étais vue sur les chemins de pierre, j'avais rêvé au bivouac et je m'étais imaginé fendre les herbes d'un pas de cheminot. Le rêve s'évanouissait toujours quand la porte s'ouvrait. C'était l'heure de la compote. Un médecin m'avait dit « L'été prochain, vous pourrez séjourner dans un centre de rééducation. » Je préférais demander au chemin ce que les tapis roulants étaient censés me rendre, des forces. Alors pour définir ce livre, eh bien, il en parle lui-même en ces mots, Sylvain Tesson. Je parlerai plutôt de journal de marche, mais ce type de journal se heurte à un double écueil, celui de la répétition. Tous les jours, il se passe la même chose. Je me remets en marche, je me repose, je me remets en marche. Et celui de la diffraction. Il faut structurer les sentiments, les idées, les réflexions, les méditations qui accompagnent une progression afin de ne pas partir dans une effroyable dispersion. Donc, ce livre est un journal organisé. Un journal a posteriori, au fond, c'est une forme de récit qui se donne l'apparence du journal. Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, un extrait.
Pourquoi le TGV menait-il cette allure? À quoi servait-il de voyager si vite? L'absurdité de laisser filer à 300 à l'heure le paysage qu'il faudrait ensuite remonter à pied pendant des mois. Pendant que la vitesse chassait le paysage, je pensais aux gens que j'aimais. Et j'y pensais bien mieux que je ne savais leur exprimer mon affection. En réalité, je préférais penser à eux que les côtoyer. Ses proches voulaient toujours que l'on se voie, comme s'il s'agissait d'un impératif, alors que la pensée offrait une si belle proximité. Le 24 août, à la frontière italienne. C'était mon premier jour de marche depuis la gare de Tende où m'avait mené le train de Nice. Je montais à pas faibles vers le col. Des graminées blondes balayaient l'air du soir. Ces révérences étaient une première vision d'amitié, de beauté pure. Après des mois si tristes, même les moucherons au soleil offraient d'heureux présages. Leurs nuages dans l'or tiède adressaient un signe à la solitude. On aurait cru une écriture. Peut-être nous disaient-ils, cessez votre guerre intégrale contre la nature. Des cèdres se tenaient sur le bord du chemin. Sérieux. Leurs racines enserraient les talus. L'arbre a souvent l'air sûr de son bon droit. Un berger descendait d'une foulée plus hardie que la mienne. Il apparut, noueux, dans le virage, avec l'allure d'un héros de Giono. Un homme d'ici. Moi, j'avais toujours eu l'air d'un mec d'ailleurs.
Attention, écriture absolument sublime que celle de Sylvain Tesson sur les chemins noirs, lu par Gabriel Baquier. Vous écoutez Clotilde Sey, c'est l'émission des livres plein les oreilles. Et on se retrouve en seconde partie avec notamment Gérald Cousineau. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Et toujours Clotilde Sey en votre compagnie, et voilà qu'il nous revient aujourd'hui de sa belle voix profonde et de toute la passion qui l'anime quand il s'agit de parler de littérature. L'ami Gérald Cousineau est avec nous à cette émission et juste après, je vais vous présenter quelques nouveautés signées Tiffany McDaniel, Jean-Christophe Ruffin et Philippe Besson. Salut Gérald.
Salut Clotilde.
Oh.
Qu'est-ce que tu veux? Pas trop.
Oh ben non, mais Gérald, non, mais salut Clotilde, non, je saurais pas le faire. C'est tellement délicieux. Ça va la vie, Gérald?
Ben ça va pas mal.
Ça va pas mal.
Encore des livres plein la caboche. Oh, ça ne finira donc jamais.
Non monsieur, et puis une chance comme ça, moi je vous agrippe, je vous retiens. Vous êtes, comment dirais-je, la moule sur le rocher que je suis, accrochée. Oh. Je devrais écrire.
Hein, diable. Que,
hein, oui, comment, non, Clotilde. Alors aujourd'hui, vous nous arrivez avec deux livres, un qui nous rappelle de tristes souvenirs, un autre qui évoque tout ce qu'il y a de plus beau sur la Terre, peut-être, en parlant de la nature. En tout cas, je vous laisse nous présenter ça.
Oui et non, bien sûr. Je vais commencer par le livre de Serge Joncour, un écrivain qui commence à faire sa marque de plus en plus. Hein. Oui. Il reçoit des prix, et il en a eu un pour « Repose-toi sur moi », prix interallié. Il en a eu un pour « Chien-loup », son avant-dernier roman. Et là, il a le prix féminin du roman pour, bien sûr, « Nature humaine
».
Alors, paru en 2020. C'est, je vais vous dire tout de suite à quel roman ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser à « Zérotonine » de Michel Houellebecq.
Ah oui?
Avec un regard un peu noir sur la condition des agriculteurs en France. Parce que nature humaine, c'est ça. Nous sommes avec Alexandre, je vais être précis, le 23 décembre 1999, il est seul sur le coteau. Il a une ferme dans le département du Lot. Est-ce qu'on dit Lot ou Lot, L-O-T?
On dit le Lot.
Lot.
Mais quand on ne le sait pas, c'est pas évident. Hein?
C'est
on dit le Lot,
donc,
oui.
Il est tout seul en ce 23 décembre 1999 et c'est le moment où la France va être balayée par une tempête très violente et il est seul. Bon, ses parents ont quitté la ferme, le vieux monsieur qui habitait tout près, le vieux Cressac, lui, est mort. Donc, il est tout seul. Et là, à partir de ce moment-là, Alexandre va nous permettre de revenir dans le temps jusqu'en juillet 1976.
Mm-hmm.
C'est 23 ans plus tôt, il a 15 ans. Il vit avec ses trois sœurs, ses parents, et c'est lui seul qui va prendre la relève. Autrement dit, son père compte sur lui pour prendre la relève, pour s'occuper de la ferme. Parce que les trois filles, bien sûr, ne rêvent que d'une chose, partir à la ville, entre autres à Toulouse, qui n'est pas très loin là. Donc, il va prendre la relève, mais il rencontre en 80, il rencontre une belle Allemande de l'Est. Ça fait un peu romantique, mais c'est ça, c'est Constance, donc, il va s'éprendre d'elle, mais Constance, elle, c'est une militante, c'est une citoyenne du monde, elle veut vivre mais un peu partout sur la planète. Et en même temps, Constance lui présente des amis qui, eux, sont des militants antinucléaires. Alors, Alexandre, qui n'a aucune notion n'est pas militant pour un sou, va commencer à s'intéresser à ça. Puis il va, vous savez que, enfin, moi, je lui ai appris que des engrais, ça peut servir à produire des explosifs. Bon, je l'ai appris dans le roman. Et lui, il en a, bien sûr, parce que là, c'est une ferme. Et ils ont beaucoup de vaches, donc ils ont des engrais. Donc, il va commencer à s'intéresser à ça. Mais ce qui est bien dans ce roman, c'est qu'on voyage, bien sûr, de 1976 à 1999. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé bien des choses. Hein. L'élection de Mitterrand en 81.
Les catastrophes de Tchernobyl,
la chute du mur de Berlin, etc. Donc, on se promène. Il n'y a pas seulement ce qui se passe sur la ferme, mais à ce qui se passe sur la planète. Et en 76, je vous le rappelle, si vous étiez en France, Clotilde, où il y a eu la fameuse canicule assez costaude, et en 99, bien sûr, c'est la tempête de vent. D'ailleurs, le roman commence le 23 décembre 99 et se termine le 28 décembre 99. Notre ami Alexandre est toujours seul sur sa ferme, et là, on devine qu'il va et qu'il manigance quelque chose, mais c'est pas très, très précis, et ça se termine comme ça. Il s'ennuie de la femme qu'il aime, mais cette femme, Constance, est en Inde, alors bien loin là-bas, évidemment.
Alors, je suis contente parce que l'extrait que je vais vous faire entendre maintenant, c'est l'extrait qu'on retrouve chez Écoutez lire Gallimard. C'est lu par Bertrand Pazos, j'imagine qu'on prononce comme ça, P-A-Z-O-S, et on est exactement avec cet homme-là, seul, sur sa terre, comme vous l'avez très, très bien souligné et même dessiné dans votre chronique. On l'écoute.
Pour la première fois, il se retrouvait seul dans la ferme, sans le moindre bruit de bête, ni de qui que ce soit, pas le moindre signe de vie. Pourtant, dans ses murs, la vie avait toujours dominé. Les Fabriers y avaient vécu durant 4 générations. Et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi, avec ses 3 sœurs, 3 lumineuses flammèches dissemblables et franches qui égayaient tout. Mais aujourd'hui, Alexandre était le seul à vivre au sommet des prairies. Cressac était mort, et les parents avaient quitté la ferme. Ce soir-là, Alexandre traîna les sacs d'engrais de la vieille grange jusqu'au nouveau bâtiment de mise en quarantaine. Ensuite, suivant toujours les plans d'Anton, il révisa les mortiers, le fioul. À présent, tout était prêt. Avant de rentrer à la ferme, il alla jeter un œil dans la vallée, à l'affût du moindre signe, du moindre bruit. Le vent était fort, alors il s'avança plus encore. Avec ses rafales venues de l'ouest, lui revenaient des éclats d'explosion et le fracas des foreuses. Par moments, il croyait même les entendre de nouveau, surgit de l'enfer, à près de 5 kilomètres de là. C'était atroce, ce bruit. À chaque fois qu'il reprenait, ça faisait comme une immense perceuse vrillant depuis le fond de l'espace, un astéroïde assourdissant qui aurait fondu sur la Terre pour venir s'écraser là.
Voilà pour la version commerciale à entendre sur toutes les plateformes qui vendent des livres audio, et c'est une production Gallimard Écoutez Lire. Vous, vous l'avez écouté où?
En fait, le livre se retrouve au SQLA,
Okay.
Mais je pense qu'il est, c'est une voix de synthèse, je crois.
D'accord. Bien. Alors, autre... Oui, pardon.
Oui, allez-y.
Non, à vous. C'est votre chronique.
Non, comme je le disais, ce qui m'a surtout intéressé, c'est le regard que Joncourt porte sur la paysannerie française.
Ouais.
Et encore une fois, ça m'a fait penser à Zérotonine, où Houellebecq portait lui aussi un regard assez sombre. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? Mais ce qui se passe en France chez les agriculteurs, c'est un peu ce qui se passe au Québec aussi. Hein. Ils sont partagés entre la tradition et le progrès, le désir de bien faire, mais aussi la mondialisation qui est là pour tous les pays. Donc, ce côté-là, vraiment, m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et attristé, je dois dire, mais je rappelle que la fin du roman se termine par Alexandre qui pense à qui? À la femme qu'il aime. Donc,
oui.
Il y a une note d'espoir à la fin. Là.
Bon. Il ne nous reste plus déjà que 5 petites minutes. Ben oui, ça passe
d'accord.
Vite avec vous, Gérald. Alors, ces 5 minutes, je veux qu'on les prenne pour le livre de Robert Harris, Munich.
Oui, Munich, donc, M. Harris est un journaliste, romancier, nouvelliste, essayiste, scénariste, producteur de télévision britannique. Il est né en 57. Il a écrit quelques romans historiques. J'en ai lu 4 ou 5 que j'ai bien aimés. Il a écrit, entre autres, une trilogie sur Cicéron, quand même.
Ah.
Et un autre roman sur Pompéi que j'ai bien aimé. Donc, il va reconstituer ce qui s'est passé ou ce qui se serait passé. Alors, dans Munich, c'est ça. Bien sûr, Munich, on pense aux accords de Munich en septembre 1938. Il y a Hitler et Mussolini qui retrouvent à Munich M. Chamberlain, premier ministre anglais, et M. Daladier, qui était président du Conseil français à l'époque. Alors, c'est donc une réunion quadripartite. Pourquoi? Parce que Hitler menace d'envahir la Tchécoslovaquie. Pourquoi? Parce qu'en Tchécoslovaquie, à l'époque, il y avait au moins 3 millions de personnes qui parlaient allemand, les Sudètes. Donc, pour lui, ces gens-là devaient absolument incorporer la Grande Allemagne. Il était prêt à envahir la Tchécoslovaquie si les pays alliés n'acceptaient pas ces conditions. Alors, il y a une réunion à Munich, mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est ce qui se passe en parallèle, parce que deux personnages nous intéressent particulièrement. Il y a un jeune qui s'appelle, enfin un jeune homme, il a 29 ans, Hugh Legat, c'est un des secrétaires privés de Chamberlain, et du côté allemand, il y a Paul Hoffmann, qui lui travaille au ministère des Affaires étrangères. Donc, ces deux-là se sont connus à Oxford en 1930, ils se sont liés d'amitié. Alors, l'occasion est belle, ils vont se retrouver à Munich, mais tous les deux vont essayer de contrecarrer les projets d'Hitler, parce que Hartmann fait partie de ces quelques Allemands qui osaient s'insurger contre Hitler, mais évidemment, la Gestapo veillait, et on sait, nous, en 2021, comment ça a résulté.
Ouais.
N'empêche que les accords de Munich ont été, on a signé les accords, d'accord, mais un an plus tard, bien sûr, Hitler envahissait la Pologne et c'était le début de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, l'extrait que j'ai pour vous témoigne bien de cette ambiance, de cette situation où réellement on ne sait pas ce qui va se passer. Là, c'est une rencontre au restaurant entre un jeune homme et sa femme, nouvellement mariée. Est-ce que c'est peut-être M. Legat, d'ailleurs, lui-même?
Oui.
J'ai pas lu le livre, mais écoutez l'extrait, c'est... On plonge dans cette époque d'avant-guerre.
Outre son sac à main, elle portait une petite boîte en carton. Elle la posa devant lui sur la table et retira ses gants. Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Plus de cadeaux. Il souleva le couvercle. Un crâne de caoutchouc noir, un museau métallique et les orbites vides et luisantes d'un masque à gaz le contemplèrent. Il eut un mouvement de recul. J'ai emmené les enfants les essayer. Apparemment, je suis censé leur mettre les leurs d'abord. Ce sera un bon test de dévouement maternel, tu ne trouves pas ? Elle alluma une cigarette. Elle commanda rapidement, sans même consulter le menu. Pas d'entrée. Filet de sole, salade verte. Le gars rendit son menu et annonça qu'il prendrait la même chose. Il ne parvenait pas à penser au déjeuner, ne pouvait détacher son esprit de la vision de ses enfants portant un masque à gaz. John avait 3 ans, Diana 2. Après toutes les recommandations dont on les abreuvait, ne pas courir trop vite, bien se couvrir, ne pas porter les jouets ou les crayons à la bouche parce qu'on ne savait jamais d'où ils sortaient. Il déposa la boîte sous la table et la poussa hors de vue avec son pied. Ils avaient très peur ?
Bien sûr que non, ils ont pris tout ça pour un jeu.
Que va-t-il se passer maintenant ? Qui peut le dire ? Peut-être rien, dit-il, sentant qu'il devait faire preuve d'un minimum d'optimisme.
C'est lu par Martin Spinayer et c'est une production de chez Lizzie, L-I-2-Z-I-E, même si ce livre se retrouve sur la plupart des plateformes commerciales et livres accessibles où vous avez pu l'entendre. C'est tout le temps qu'on a, mon ami Gérald.
Enfin, juste dire que c'est un roman passionnant.
Passionnant.
Le roman historique et ce monsieur est documenté comme c'est pas possible. Ah. Incroyable. Incroyable.
Et quand on dit monsieur, c'est monsieur Robert Harris. Merci beaucoup, Gérald. Déjà,
hâte
à la prochaine.
Au revoir.
Je vous embrasse. Bonne journée.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your windowpane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops, that's where you'll find me. Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I?
Certainement une des plus belles, si ce n'est la plus belle version de Somewhere Over the Rainbow, extrait du Magicien d'Oz, bien sûr, chanté par Ella Fitzgerald. Ma foi, le Magicien d'Oz, on est très loin de l'univers que va connaître Betty Carpenter, dite la petite indienne, née dans une baignoire, sixième de 8 enfants. Sa famille vit en marge de la société, car si sa mère est blanche, son père est Cherokee. Et lorsque les Carpenters s'installent dans la petite ville de Breathed, après des années d'errance, le paysage luxurieux de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit, bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise dans l'écriture son courage. Elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années pour qu'un jour ces histoires n'en forment plus qu'une qu'elle pourra enfin révéler. Ce résumé, on le retrouve sur le site d'Audiolib qui fait paraître Betty de Tiffany McDaniel, un livre audio lu par Audrey Dulster, dont je vais maintenant vous proposer un extrait, et qui fait partie d'ailleurs des livres qui se retrouvent en lice, Betty de Tiffany McDaniel, pour le prix du livre audio Audiolib. Extrait.
Dis pas. C'est comment, un cœur en verre ? Je lui pose la question parce que je sens que la réponse sera encore plus extraordinaire que tout ce que je peux imaginer. C'est un morceau de verre creux, en forme de cœur. Sa voix donne l'impression de s'élever par-dessus les collines qui nous entourent. Et le verre, il est rouge, pas ? Aussi rouge que la robe que tu portes en ce moment même, Betty. Mais comment tu peux avoir un morceau de verre dans ton corps ? Il est accroché avec une jolie petite ficelle. Et à l'intérieur du verre, il y a l'oiseau que Dieu a pris tout là-haut, au paradis. Pourquoi il a mis un oiseau dedans ? Pour qu'il y ait toujours un petit morceau de paradis dans notre cœur. Je suppose que c'est l'endroit le plus sûr pour un morceau de paradis. C'est quel genre d'oiseau, pas ? Eh bien, petite indienne, dit-il en frottant son allumette sur le ruban en papier de verre de son chapeau à large bord. Je pense que ça doit être un oiseau étincelant. Et que tout son corps brille de petits feux, comme les souliers rubis de Dorothy dans ce film-là. Quel film ? Le Magicien d'Oz. Tu te souviens de Toto ? Il aboie et finit par un long hurlement. Le petit chien noir ? C'est ça. Il plaque ma tête contre sa poitrine. Tu entends ? Toc-toc, toc-toc. Tu sais ce que c'est, ce bruit ? Toc-toc, toc-toc. C'est le battement de ton cœur. C'est le bruit que fait l'oiseau en battant des ailes.
Oh, que c'est joli. Betty, sorti chez Audiolib, un livre audio lu par Audrey Dulster, un livre signé Tiffany McDaniel. Depuis quelque temps, ça m'arrive souvent, ça, je fais des fouilles archéologiques dans ma bibliothèque et je retrouve des livres que j'avais commencés et jamais finis, ou que j'avais fini et que j'avais envie de recommencer. Et là, je suis tombée sur Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, prix Goncourt 2001. Et voilà que Gallimard, la collection Écoutez lire, vient de sortir un livre audio de Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, lu par je ne sais pas, c'est un lecteur qui n'est pas identifié, c'est dommage. De quoi s'agit-il ? De la grande aventure des Français au Brésil, qui est un des épisodes certainement les plus extraordinaires et surtout les plus méconnus de la Renaissance. Rouge Brésil, ça raconte l'histoire de deux enfants, Juste et Colombe, qui sont embarqués de force dans une expédition pour servir d'interprète auprès des tribus indiennes. Mais alors, tout est démesuré dans cette aventure. Alors le cadre, la baie sauvage de Rio, qui est encore livrée aux jungles et aux indiens cannibales, les personnages, à commencer par le chevalier de Villegagnon, qui est le chef de cette expédition, qui est un nostalgique des croisades, un type pétri de culture antique, un espèce de précurseur entre Cyrano et D'Artagnan, pour vous donner une bonne idée. Alors ça fourmille ce livre de portraits, de paysages, d'actions, ce rouge brésilien, qui est écrit dans une langue qu'on précise ici dans le résumé qui est fourni par Écouter Lire, une langue à l'ironie voltairienne. Et c'est vrai que ça sonne un peu vieux français, mais ce n'est pas écrit en vieux français. C'est-à-dire ça sonne vieux français peut-être dans la syntaxe, avec des personnages complètement fous, d'artagnesques comme ça. Alors, à travers les choix de Juste et de Colombe, ce livre va mettre en scène deux conceptions opposées de l'homme et de la nature, va faire revivre le monde disparu des Indiens, un monde cruel, mais aussi un monde réputé pour son sens de l'harmonie et du sacré, et de ce permanent appel du bonheur.
Imaginez un instant, monseigneur, ce que peut ressentir un homme qui voit bouillir devant lui l'eau où il va cuire. Sur ces mots, le matelot jeta vers les braises un regard lugubre. Menteur, menteur, cria l'Indien en se redressant.
« Comment donc, menteur? Vous ne mangez pas vos semblables, peut-être? Ou est-ce la recette que tu contestes, malandrin ?»«
Il est vrai, monseigneur, » poursuivit le marin en s'adressant de nouveau à l'officier, « que les Brésiliens ne procèdent pas tous à la manière de ceux qui m'ont capturé. Certains de ces messieurs boucanent. » Voilà le fait, c'est-à-dire qu'ils rôtissent, ou si vous préférez, qu'ils fument. Le contesteras-tu, Pandare ?
Le marin, de sa force malingre mais résolue d'ivrogne, avait saisi l'Indien au pourpoint et collait devant lui son nez luisant. La confrontation dura quelques secondes, chacun perdu de haine dans les yeux de l'autre. Puis soudain, le matelot relâcha son étreinte. Ils partirent tous les deux d'un grand éclat de rire et se serrèrent bruyamment la main. 8 heures sonnaient à la grande tour de la cathédrale de Rouen, et le cabaret, faisant face au vénérable édifice, trembla de toutes ses poutres à chaque coup.
Et comme je suis native de Rouen, je vois très bien la place, la cathédrale et tout ça. Bref, je me régale, c'est sur ma table de chevet et la version audio est également très agréable et proposée par Écouter Lire Gallimard. Et enfin, chez Lizzie, le dernier enfant de Philippe Besson. Et voilà le résumé qu'on nous en fait sur le site de chez Lizzie. Que se passe-t-il dans le cœur d'une mère lorsque le dernier de ses enfants quitte la maison? C'est arrivé à plusieurs d'entre vous et d'entre nous, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce roman déchirant autour des 24 heures de la vie d'une femme. 24 heures dont l'existence entière vacille à l'approche d'une séparation inéluctable. Sans se l'avouer, Anne-Marie redoutait cette échéance depuis des mois. Aujourd'hui, Théo, son plus jeune fils, quitte le nid familial. Alors du dernier petit déjeuner à trois avec le mari autour de la table de cuisine jusqu'au moment où la silhouette de son fils s'amenuisera dans le rétroviseur d'une camionnette de déménagement, il va lui falloir affronter l'évidence, rien ne sera plus jamais comme avant. C'est cette journée particulière que nous raconte Anne-Marie. Anne-Marie qui est tour à tour chancelante et confuse, maladroite, touchante, qui revisite les moments décisifs d'une existence en grande partie consacrée à la maternité et donc entre oubli de soi et joie intense d'être le centre de gravité familiale. Parlant du dernier de ces petits déjeuners, eh bien, en voici un extrait du dernier enfant de Philippe Besson. C'est lu par Nathalie Hugo chez Lizzie.
En attendant, Patrick apparaît dans la cuisine, parasé. C'est le seul jour de la semaine où il s'autorise cette liberté. Anne-Marie trouve que ça lui va bien, cette barbe d'un jour. Lui, il n'aime pas trop, mais préfère encore ça à la corvée et au feu du rasage. Il s'assoit directement à la table, sans embrasser sa femme, sans même grommeler un bonjour. Avant, plus tôt dans leur vie, chaque matin, il déposait un bref baiser sur sa bouche. C'était leur moment à eux, mais les baisers se sont estompés et ont finalement cessé. Elle ne saurait même plus dire quand. le bonjour aussi s'est volatilisé. Patrick dit « On dort dans le même lit, on vit sous le même toit, ça sert à quoi de se dire bonjour, tu peux m'expliquer ?» Il n'a pas tort. Quand même, elle appréciait cette convivialité. La regrette un peu. Aussitôt, elle glisse les tranches de pain de mie dans le grille-pain et demande à son mari s'il a bien dormi. Ça, elle a encore le droit, alors parfois elle ne s'en prive pas. Surtout quand elle l'a senti agité pendant la nuit.
Ouais, ça va être joli quand le petit dernier sera parti. C'est ainsi que se referme cette émission des livres pleins les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier Patrice Godin, dont le livre « Les chiens » est dorénavant au catalogue des livres audio de Vues et Voix, et remercier aussi Gérald Cousineau qui se fait, lui, le porte-étendard de ces gens qui ont encore besoin des livres audio pour avoir accès à la culture littéraire. Voilà, c'était Clotilde Seille. Je voudrais aussi remercier mon camarade Jean-Sébastien Laliberté qui m'épaula une fois de plus cette semaine, et merci à vous que vous nous écoutiez en balado à CKVL ou à Canal M d'être présents chaque semaine pour prendre conscience que le livre audio, c'est une autre façon de lire. Allez, salut!